Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et aujourd'hui, direction les Survivor Series. Nous sommes en 2022 et ce ne sont pas n'importe quelles Survivor Series. Ce sont les Survivor Series War Games avec des règles à n'y rien comprendre. Et avec moi, pour analyser ce PLE complètement fou, avec moi, Giscal. Salut Giscal.
Salut Jerem, salut tout le monde. Ouais, sacrée règle hein, ces War Games. On va voir si on arrive à les résumer.
Ouais, 5 matchs à l'affiche. Nous sommes à Boston, Massachusetts. Pas de surprise, hein. Il n'y a pas eu de grosse surprise. Pas de petit coucou de Sasha Banks. Pas de coucou de John Cena. On est resté sage, on est resté tranquille. Place au catch avec 5 matchs à la carte. Et on a commencé fort, fiscal, puisqu'on a pensé à toi. On a commencé avec les filles.
Et oui, pour me faire plaisir, pour me faire plaisir. Ouais. Ce petit format court, pas si court. Hein. On voit 5 matchs à la carte, on se dit attention, pay-per-view, NXT et tout, mais on va vite voir que non, c'était bien des gros trucs, bien costauds.
Hein. Ouais. D'ailleurs, à la fin de cette analyse, je vous balancerai les résultats des concours de pronos. Il y a eu du grabuge, il y a eu du vol. Je l'annonce tout de suite. Et il va falloir faire appel à la VAR. Parce que là, c'est pas normal ce qui s'est passé. War Games féminin, d'un côté, Bianca Belair, Becky Lynch, qui arrivait à SmackDown, Asuka, Alexa Bliss et Michin, versus Bayley, Rhea Ripley, Dakota Kai, Io Sky et Nikki Cross. Bianca Belair et Dakota Kai qui ouvrent les festivités, donc, de ring, hein, côte à côte et autour d'une cage. Les deux entrants, et après le troisième entrant, c'est au bout de 5 minutes jusqu'à et après, c'est toutes les 3 minutes, hein. Que quelqu'un entre à
exactement.
Tout
exactement. Ouais. Ce qui fait, on discutera après, mais ce qui en effet rend ce début de match un peu artificiellement long. En effet, hein, ces entrées successives jusqu'à la cloche qui sonne, et puis après c'est la ring annonceuse qui nous dit Let the war games begin et tout, et t'as envie de dire bon ouais, du coup depuis une demi-heure qu'est-ce qu'on fait quoi. mais ouais exactement, c'est ça, 5 minutes puis 3
ouais. Ouais, aucune tentative de tomber est utile, non. À vrai dire,
ne sert à rien.
Les war games n'ont pas commencé, donc en fait on est là juste pour faire du travail de sap, bon jusqu'à il faut démolir autant que possible l'adversaire avant que la cloche ne sonne. Je l'ai dit donc, Bianca et Dakota qui commencent le match. Les Heels, n'oublions pas, les Heels ont gagné leur match davantage. C'est-à-dire que c'est du côté de l'équipe de Bayley que va entrer la première participante. Et donc Dakota Kai est rapidement rejoint, enfin rapidement, au bout de 5 minutes, elle est rejointe par Io Sky. Et du coup, les Heels prennent l'avantage. Alors c'est un peu la formule, hein, c'est très, très mécanique, mon bon Giscal. Aussitôt qu'une des deux équipes est en surnombre, eh bien, elle reprend l'avantage et démolit le travail effectué par l'adversaire précédemment. Donc c'est assez mécanique. On va voir comment les filles ont réussi à transcender cette stipulation. Ça devient intéressant, en tout cas un peu de folie arrive quand c'est Nikki Cross qui va rejoindre le match un petit peu plus tard. Entre temps, du côté des filles, c'est Asuka qui avait rejoint l'équipe pour faire le fameux face-à-face des japonaises que le public aime tant. Nikki Cross qui est entrée et qui entre et qui ramène tout un tas du matos. Mon beau Giscal, elle est venue avec son matos, des armes.
C'est les kendo-sticks, elle, je crois. Ce sont tous les kendo-sticks.
Beaucoup.
Ouais, c'est ça. Et sa veste, n'oublions pas sa veste, qui est une arme redoutable.
Et puis aussi des menottes. Menottes qui serviront un petit peu plus tard pour menotter Alexa Bliss. Voilà. Même si elle va se retrouver menottée, elles vont se retrouver menottées toutes les deux au ring. Bayley arrive après l'entrée d'Alexa Bliss. Elle arrive et elle, c'est des chaises, c'est des tables et des échelles, carrément. Là, c'est le gros matos, c'est le gros déménagement pour Bayley. Rhea Ripley, Becky Lynch, Rhea Ripley entre temps, il y a eu Michin. Je ne sais plus c'était exactement dans quel ordre. Il y a eu Michin, après Rhea Ripley, après
et puis ensuite,
Bianca Belair.
Non,
ouais, ah non. Bianca Belair Et après, oui, non, t'as raison.
Moi, je sais même plus.
Oh, c'est Bikini,
Rhea
je
Ripley,
t'entends
c'était pas la
dernière.
dernière des méchantes, ça?
Et t'as raison. Rhea Ripley, la dernière des méchantes à entrer, tu as raison. Entre-temps, il y a eu Machine et Rhea Ripley. Et
Et
puis
Bikini, je vois.
Becky Lynch. Puis il y a eu Bianca Belair à un moment donné. Bref,
C'est ça. Il y a un
c'était
moment,
le
elle est
bon.
rentrée, c'est sûr. Je l'ai vue, de toute façon, je l'ai vue.
Elle était là. Elle était là. Et le match peut enfin véritablement commencer avec des spots dans tous les sens. Certains qui ont été un franc succès, d'autres un petit peu moins. Nikki Cross, à un moment donné, s'est retrouvé tout en haut de la cage et a fait le fameux crossbody sur tout le monde qui, je sais, t'a épaté, mon bon Jessica. Je peux
Oh là là,
déjà
c'est
le spoiler.
exceptionnel.
Et puis, on a eu évidemment pas mal d'affrontements entre les unes et les autres. Il y a eu un face-off qui est resté gravé dans nos mémoires entre Becky Lynch et Rhea Ripley, peut-être annonciateur d'une suite. En tout cas, c'est une des grosses rivalités qu'on attend, c'est certain. Yo Sky s'est retrouvé la tête dans la poubelle, hein, avec son spot. Et puis, elle a foussé un spot du haut de la cage, un petit moonsault, comme elle avait fait dans un takeover Wargames.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore, mon bon Giscal,
Écoute, on a eu
en petit spot sympa?
la petite descente de la cuisse de Becky Lynch du haut de la cage aussi pour finir les affaires, qui était
Bah
un
oui.
spot
Ah oui, donc toi tu
qui
veux
était un
carrément.
spot
Alors je te demande des faits saillants. Puis bah, il y a eu la
parce que je sais
fin,
pas,
Becky Lynch.
moi j'ai eu blackout après j'ai pas de souvenir d'autres spots exceptionnels, non? Là, de ce que tu as dit. Ça me parle pas trop. C'est
En tout cas,
peut-être.
Becky Lynch, effectivement, qui nous fait une magnifique
Oui, pardon.
descente de la cuisse
Et hop!
à travers la table. Io Sky et Dakota Kai qui étaient entre la table et Becky Lynch. Et Dakota Kai se bouffe le tombé de Becky Lynch qui n'a pas fait le déplacement pour rien. 1, 2, 3, victoire des gentils et défaite des méchants. Mon bon Giscard, Wargames féminin pour commencer les Survivor Series. Sentence.
Sentence. 40 minutes, 40 minutes, hein. C'était un sacré morceau. C'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre. Moi, j'avais jamais vu un seul wargame de NXT, donc c'était tout nouveau pour moi. Je pense que ça joue pas mal hein, dans mon appréciation du match, qui était clairement pas dingue. Alors, je suis un peu redescendu en température sur ce match que j'avais qualifié un peu de fiasco de mon côté. Peu après avoir fermé mon network
Le mec s'est
dimanche.
déchaîné. Hein. J'ai lu quand
Et
même, pour te dire, j'ai lu tout ce que tu as dit. Ça m'a pris une
ouais.
heure. J'ai
Une
lu
heure.
ça. J'ai
Une
lu ça
heure. Ouais.
hier, ta discussion sur le Discord. Je me dis,
Ouais.
mais le mec était pas content là, c'est pas possible.
Non, j'étais pas très content. Alors, je suis toujours pas du tout, enfin, pas du tout emballé par ce que j'ai vu. Je redescends un peu dans le sens où, bon, je relativise un petit peu la prestation des filles qui était pas mauvaise. Hein. On a eu un match globalement. Ce qui était appréciable, on va dire, c'est que personne n'était hors sujet. On n'avait pas de mauvaises catcheuses dans le ring. C'est vrai que le line-up proposé, c'est sans doute les 10 meilleures catcheuses actuellement dans le roster féminin. Je pense que ça déjà on peut le mentionner parce que c'est clairement pas du côté de SmackDown qu'il faut aller chercher quelque chose de positif en ce moment au niveau du catch féminin. Donc déjà c'est sûr qu'on partait avec cet avantage-là qu'on a eu. On a eu un match très propre avec en effet. Quelques spots saupoudrés où on sentait qu'on voulait un petit peu construire le package vidéo des années à venir avec ce moonsault, avec ce crossbody, avec cette descente de la cuisse, voilà, quelques spots un petit peu de high flyer, mais au final j'ai un peu l'impression que c'est bah voilà, on retient un petit peu que ça de ces 40 minutes, c'est peut-être deux trois éclairs et cette stipulation a été usé, vraiment usé jusqu'à la corde. Je trouve vraiment cette stipulation pourrie. C'est cette latence au début qui n'est absolument pas exploitée scénaristiquement en plus. Alors donc là, c'est peut-être quelque chose qu'on peut mettre au grief des bookers, qui est ce côté, voilà, soi-disant, on a gagné l'avantage dans le match. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais je trouve pas pendant parce que donc sinon, si on compte les 5 minutes du début plus du coup les 3 minutes qui espacent toutes les entrées, je crois qu'on on arrive à pas loin de 25 minutes de match déjà, même peut-être plus d'ailleurs, enfin faut faire les maths là, mais déjà jusqu'à arriver vraiment au sonnage de cloche, et j'ai vraiment l'impression que ça sert à rien en fait cette phase-là. On ne nous raconte pas grand-chose, les heals n'exploitent absolument pas l'avantage, donc ça c'est plus un problème d'écriture peut-être, mais c'est vrai que j'ai souvenir de chaque fois les heals, quand elles arrivent en supériorité numérique, elles passent une minute quasiment à rentrer des armes dans le ring, donc t'as une Nikki Cross qui a passé une minute à faire des sourires à la caméra et à rentrer les kendo sticks dans la cage et derrière à rentrer et à taunter et à taper les gens avec son manteau, et au final tu te dis bah ouais, est-ce qu'elle prend vraiment l'avantage? T'as Bayley pareil, qui a passé une minute à rentrer ses échelles, c'était un peu la galère. T'as Mia Yim qui est censée revenir, parce que du coup là c'est l'inverse, c'est une gentille, donc elle est censée égaliser, et donc à la limite si tu te dis t'as qu'une envie, c'est de foncer dans le ring, et en fait elle a passé plus d'une minute à botcher trois fois de suite son lancer de poubelle par-dessus la corde.
Le Real avait lâché l'affaire, le Real.
Ouais, il avait lâché l'affaire à juste titre, je pense. Il voulait pas l'accabler, donc il filmait pas. mais tu la voyais de temps en temps, il revenait trop vite sur elle et elle était en train de galérer. Ces entrées, en fait, toute cette histoire de la stipulation qui est qu'il est censé y avoir un avantage et les autres qui sont censés se précipiter pour égaliser, je trouve qu'on le ressent pas du tout. C'est pendant 25 minutes on meuble, on ne raconte quasiment rien. Alors non, c'est un autre des défauts de ce match, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, je trouve, vraiment. Et au bout d'un moment, voilà, on arrive et les 10 sont dans le ring, on sonne la cloche, on se dit ah, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai pas trop apprécié dans ce match, mais qui était attendu, hein, c'est que bah voilà, en fait, les choses sérieuses ont commencé. En fait, les choses sérieuses, c'était le show Becky Lynch, quoi. Et y avait pas grand chose d'autre.
Ouais, elle a roulé quand elle est entrée.
Ah, quand elle est rentrée, elle a roulé sur le roster. Ouais, elle a séché tout le monde. C'est-à-dire que les méchantes l'attaquaient une par une, un petit peu comme des débilos. Rhea Ripley est tombée dans un trou noir à ce moment-là. On sait pas trop. J'ai plus forcément le déroulé du match bien en tête, mais j'ai le sentiment que d'un seul coup, elle a un petit peu disparu. Et puis après, elle est revenue, elle s'est pris le Green Mist et c'était terminé. Donc c'est vrai que l'avantage Rhea Ripley, à partir du moment où elle s'est 10 dans le ring, bah, c'est complètement évaporé, et donc c'était tapis rouge pour Becky Lynch, pour son grand retour, qui a martyrisé tout Damage Control pour finir avec la victoire flamboyante qui lui est revenue quasiment comme attendu, hein. C'est vrai que c'était on l'avait un petit peu dit, enfin, en tout cas moi c'est ce que je pressentais un petit peu avant ce match, c'était que beaucoup du ce wargame féminin de toute façon dépendrait clairement de qui serait la cinquième, et si c'était un gros retour, ce serait sans doute un showcase pour cette personne-là, et donc c'est ce qui s'est un petit peu passé. Et donc, voilà, j'irai pas plus loin sur ce match-là, parce que je pense que beaucoup de mon ressenti négatif vient du fait que j'ai vraiment du mal à ne pas l'analyser à l'aune du wargame masculin. C'est compliqué, je trouve, de pas comparer quand on a la même stipulation, avec la même, vraiment, un peu thématique, dans le même pay-per-view. C'est un peu délicat de pas comparer, mais ouais, voilà, je trouve qu'elles ont subi vraiment tous les défauts de la stipulation, et auxquels on ajoute en plus cette absence de build, qui n'est pas une surprise, hein. On le savait, hein, on s'avançait dans les wargames avec quelque chose d'extrêmement fade, d'extrêmement forcé depuis 3-4 mois, c'est-à-dire que cette rivalité traînait en longueur et était artificiellement réanimée à chaque pay-per-view, enfin, en tout cas à chaque weekly post-pay-per-view, avec des promos, dire on est toujours pas contente, il faut qu'on continue à se foutre sur la gueule. Et donc ça a donné quelque chose qui globalement pour moi était un petit peu forcé artificiellement un peu glorifié, alors que j'ai eu le sentiment que c'était quand même assez moyen.
Ouais, on paye, c'est tous ces mois-là de rivalité sans âme, sans cœur et sans trip, où effectivement, on a l'impression qu'on avait juste mis en salle d'attente là, le temps de faire revenir Becky Lynch, et que ça y est, là, on respire à nouveau, quoi. On sent qu'on va enfin respirer. Alors, à noter, dans les 2-3 autres spots qu'il y a eu, il y avait notamment cette Tower of Doom, à 9, elles étaient 9, je crois,
oui.
Se grimper
sur
les autres. C'était
exceptionnel, ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé.
Et puis je crois
ça
que
me
c'est
fait toujours beaucoup marrer,
qui vient foutre le bordel et qui étale, enfin voilà, le machin s'écroule complètement. tout le monde était très gentil à ce moment-là de faire cette...
J'ai pas compris le spot, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de celui-ci. Je m'attendais à un truc de fou. Le grand classique de... Elle se monte les... C'est ce que j'ai mis sur le Discord, je crois. C'est, t'as l'impression que c'est... je sais plus comment ça s'appelait, la matière en EPS qu'on avait à l'école où il fallait qu'on fasse des pyramides. Et tu sais, et puis après, faut garder la pyramide pendant 5 secondes pour valider la position et avoir ta note. Je sais plus comment ça s'appelle.
C'était validé, Giscal, t'étais au-dessus, t'étais en dessous.
Écoute, c'était validé. Ouais, non, moi, j'étais en dessous.
Il avait sa dispense.
Mais ça fait vraiment... Alors, il y en a une qui va en haut, puis après, il y a les deux autres qui se placent sur les côtés, puis après, il y en a trois autres qui se placent en dessous. Elles font bien leur... joliment leur petite figure, et au final... pour rien du tout, parce qu'il y a Nicky Cross qui arrive, qui met un coup de kendo stick et ça sert à rien.
Et tout s'écroule, j'ai pas pigé.
Ouais. Elle était pas satisfaite peut-être de la position. Elle dit non, ça me va pas.
Il y a eu quelques trucs un peu cracra quand même aussi. Des moonsaults un petit peu sur le côté. Je remercie Dakota Kai qui a bouffé le grillage pas mal de fois. Elle s'est fait balancer à droite à gauche. Du côté masculin, on verra que c'est Boubouch qui a aussi pas mal
morflé.
Il y a toujours un mec ou une fille qui sert à se faire.
Il y en a là qui est là pour jouer la balle rebondissante. Là.
Ouais. C'est ça, c'était plutôt sympa. Et puis à la fin, effectivement, tu l'as dit, on a eu le. On a eu le showdown entre Damage Control et Becky Lynch et Bianca Belair où les filles qui étaient impliquées dans cette rivalité, ça renvoyait à ce finish de SummerSlam et puis le retour de Bayley et tout. Donc l'image était sympa, mais en fait tu te dis entre les deux images, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ça le truc en fait.
C'est passé que Damage Control s'est fait rouler dessus et que à la limite si Damage Control avait été en contrôle pendant tous ces mois-là, vraiment foutre le bordel. Et là, tu pouvais dire, ah ça y est, Becky Lynch revient, The Equalizer, quoi, et elle va pouvoir
Exactement.
Le queue Damage Control, sauf que Damage Control s'était déjà fait punir sévèrement pendant trois
c'est-à-dire
mois.
Quand tu dis ça, tu dis tout. C'est-à-dire que Damage Control n'était plus une menace depuis bien longtemps. Ils se sont fait battre, Bayley s'est fait battre enfin, quasiment à 3-1 en ladder match contre Bianca Belair. Elles ont globalement tout perdu depuis le début. Et c'est vrai que moi vendredi, quand j'ai vu Becky Lynch revenir, j'ai immédiatement validé mon pronostic de dire d'accord. évidemment que la team Bianca Belair Becky Lynch va gagner. Il y a aucune raison. Que ça se passe autrement que ce qui s'est passé depuis 4 mois. Et c'est l'écueil principal de ce match qui n'est pas du tout aidé, je trouve, par cette stipulation qui force. C'est vraiment une stipulation de forceur, je trouve. C'est vrai que ça fait partie des stipules, j'aime pas trop. C'est un peu les travers du catch. Parfois, on a l'impression qu'il faut absolument, trouver des autres façons de proposer des no DQ. Enfin, c'est vrai que parce que des no DQ à la WWE, il y en a un paquet, les Last Man Standing, les I Quit Match, les Hell in a Cell, les Steel Cage, les TLC, les Chairs Match, les Tables Match, les Ladders Match, tu peux trouver toutes les
variantes. Dès que tu rajoutes un troisième adversaire et c'est bon.
Et puis oui, un triple threat, c'est no DQ, c'est un Fatal 4-Way, un Six Pack Challenge, in fine, ça reste des no DQ. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'il y a cette surenchère nécessaire de se dire, tiens, on va essayer de créer un truc encore plus fou. Et qu'est-ce qui se passe si on met deux rings? Ce qui se passe déjà, c'est qu'en fait, c'est le bordel, parce que c'est super mal filmé. Et qu'est-ce qui se passe si on met tout un tas d'objets dans une cage? Écoute, en fait, c'est un Hell in a Cell avec deux rings, quoi. Et puis, on rajoute des timers, histoire de l'allonger. Ouais. Et tout ça, je trouve, n'aide pas. Quand on n'a pas d'histoire à raconter, et c'était le cas en fait. Pour moi, c'est vraiment. Je sais qu'il y en a qui arrivent à trouver.
Il y avait une histoire, mais l'histoire c'était une fois que Becky Lynch était entrée, et l'histoire c'était juste le retour de Becky Lynch.
Ouais, c'était le retour de Becky Lynch. Et donc, c'est un petit peu beaucoup de fioritures pour pas grand chose, je trouve, ce match. Et qui, encore une nouvelle fois, fait, à mon sens, très pâle figure par rapport au main event. Et forcément, ça doit jouer aussi dans l'appréciation de ce match qui n'a pas été mis dans les meilleures conditions. Et là où je leur jetterai pas la pierre, parce que les filles ont ont quand même bien bossé, hein, clairement. C'était pas, c'était loin d'être.
Le loin blâme n'est certainement pas à mettre sur les 10 filles qui se sont mises sur la tronche
Mais elles ont absolument pas été mises du tout dans les mêmes conditions que les hommes. Et on aura l'occasion d'en reparler.
Que, juste pour ce que disait quelqu'un sur le Discord, je ne sais plus qui a dit ça, je retrouvais peut-être, mais c'est que souvent, malheureusement, quand tu as deux fois la même stipu dans la soirée, tu as souvent un match qui a toute l'attention et les faveurs des bookers et des scénaristes, et ouais. L'autre qui va juste être un spot fest. Malheureusement, dans une stipulation où il faut faire durer pendant 25 minutes avant que le match commence, et ben ça se voit, et puis tu as beaucoup de temps mort et beaucoup trop de trous noirs, mais on reparlera de tout ça lors du main event qui, lui, donc, avait également la même stipulation. On va retourner à un match beaucoup plus simple et basique. Bobo Jiskal dans le catch, un mec à gauche, un mec à droite, et ça se met sur la tronche jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Des fois, le catch, c'est très simple. Alors, on pouvait se dire, tiens, c'est bizarre quand même, on aurait pu avoir un match d'équipe entre le Judgment Day et Z aussi, mais non, ça s'est tourné autrement, cette histoire. C'est un match de chef des clans, comme le dit notre bon ringside, pour qui c'était le match de la fin de la rivalité, donc il n'a rien calculé, donc il s'est planté dans ses pronos ringside, qui a un problème de lecture, de grille de lecture à la WWE, il croit que ça se fait, il croit, je sais pas où, au Japon ou en Belgique, là, le mec, hein, il croit que non. Non, mais crois quoi. Non, ici c'est
n'importe quoi.
Ici c'est la WWE. Finn Balor versus AJ Styles n'est qu'une étape dans cette guerre des clans qui oppose donc le jugement des Easy aussi. Match plutôt bien ficelé dans son site qui du coup lui n'a pas souffert de stipulations boursouflées. AJ Styles qui a le contrôle. Alors Finn Balor qui est venu avec un masque de SM là, une fois de plus, ça fait un peu flippant là, tout recouvert tout de noir.
J'aime bien ces entrées de pay-per-view. J'aime bien. Son petit masque à pointe était bien flippant. Là, je sais pas trop ce que c'était, cette sorte de.
Et plus de pointe, c'était encore plus flippant.
Ouais.
ça recouvrait toute sa tête. C'était à moitié futuriste, à moitié malsain. Il doit avoir une pièce spéciale où il range tout son matériel à la maison, je pense, Finn Balor. Beaucoup de clins d'œil sont faits hein, sur leur parcours au Japon, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment un truc qui a éclaté là, depuis la prise de pouvoir de Hunter. On parle de la NJPW là, au moins 10 fois. On a mentionné le Japon au moins 10 fois. On a mentionné d'anciens catcheurs japonais contre qui ils étaient en rivalité. Alors, genre Kushida, mais Kushida, entre-temps, il est passé à WWE. Donc, on n'en est pas encore à mentionner des stars du Japon actuel qui ne sont pas passés par Stamford. Mais c'est sympa, hein, globalement, je trouve, depuis quelques temps, là, depuis l'arrivée de Triple H, on parle vraiment beaucoup de ce qui s'est passé avant. Et ça rajoute, ça en rajoute un peu de grandiose, un peu de storytelling aux rivalités. AJ Styles, notre gars sûr du sud qui prend le contrôle du match, mais Finn Balor ne se laisse pas faire. Et puis, au bout de 10 minutes, mon bon Jiskal, ça part en cacahuète. Dit aussi, et Judgment Day commence à brawler à l'extérieur. C'est le bordel. Ça se retrouve même dans le public, ça disparaît dans le public, je serais tenté de dire. Alors, les filles n'étaient pas là, hein, du coup. Hein. C'était vraiment les bonhommes.
Ouais. C'était plutôt bien faire une bonne touche parce que c'est vrai qu'a priori elle n'aurait pas dû être en condition de pouvoir réintervenir physiquement après un tel match d'une telle brutalité.
Tout à fait. Dominique qui fait chuter AJ Styles, c'est pas très sympa. Domino là, Domino qui fout le bordel.
Domino.
Tout le monde, voilà, tous les sidekicks se retrouvent dans la foule à se foutre sur la tronche et quelques. Bon coup de semelle là qui ont été faits entre les bonhommes. Et on arrive à la fin du combat. Finn Balor qui évite le splash, le Phoenix Splash à deux AJ. Il lui fait le dropkick qui le balance dans le coin. Il se lance pour le coup de gras, mais c'est évité. On se retrouve dans le Calf Crusher. Il y a eu pas mal de comptes sympas hein, au niveau pour placer ce Calf Crusher là, notamment après le coup de grâce. Là, il a bien, c'était plutôt bien foutu. Balor résiste. Il écrase la tête d'AJ Styles contre le sol et AJ Styles place son phénoménal forearm pour le compte de 3, mon bon Jiskal, 1, 2, 3, victoire d'AJ Styles. Et puis on remet une petite pièce dans la machine et puis ça a fait du bien là, ce petit match simple et efficace.
Exactement, ouais, écoute, alors je comprends un peu la vision de ringside, hein. C'est vrai qu'il voyait, écoute, c'est les chefs qui s'affrontent, alors il sacralise peut-être un petit peu trop le côté chef de clan, même si, Finn Balor n'est qu'un chef même pas autoproclamé, hein,
non, non, c'est Ringside qui a décidé que c'était Finn Balor.
C'est Ringside qui fantasme le fait que Finn Balor est chef de clan, alors que bon, non, Judgment Day, ils sont tous à égalité et tout ça. Non, mais bon, je vois un peu le délire, parce que c'est vrai que bon, bah, voilà, c'est un peu les deux têtes d'affiche des groupes. Tu pourrais te dire, bon, bah oui, c'est une sorte de mettre un petit point final à cette rivalité, mais bon, bah voilà, on sait quand même que The OC, Judgment Day, c'était quelque chose qui était construit. Bah, autour du bordel en équipe, ils avaient ramené Miaim justement pour faire égalité 4 contre 4, et ce qui les importait, c'était vraiment de battre le Judgment Day en équipe. Et donc c'est vrai que ce match, moi j'avais plutôt bien aimé, parce que ce match avait été construit un petit peu sur le côté, écoute, ok, on se fout sur la gueule par ailleurs, entre nous, on s'aime pas, mais par contre, il faut qu'on règle, nous, notre problème, on va dire, notre problème tous les deux, qui est que, bah voilà, c'était un petit peu de savoir... Il y avait des callbacks, comme tu l'as dit, à leur carrière respective au Japon et commune. C'était qui était un petit peu le meilleur chef de groupe, quoi, d'une certaine manière, et pas forcément qui était le meilleur groupe là ce soir. C'était vraiment une petite affaire d'ego entre eux, de unfinished business en quelque sorte, du passé, de ce qui a pu se passer pour eux dans d'autres fédérations. Je trouvais que le sous-jacent de cette rencontre était sympa, parce que ça permettait de filer pour le public WWE une super affiche, et puis pour le public un petit peu smart qui connaît les deux bonhommes, un joli callback de leur carrière respective. Et puis je trouve que c'était assez rafraîchissant de voir un bon vieux 1v1 entre deux super gars qui savent envoyer du très lourd, pas de bullshit, pas de DQ, pas de run-in, pas de truc. Enfin, il y a eu un run-in, mais il a été vite écarté dans le public, et du coup, ça a vite dégagé. J'ai eu un feeling assez old school. Enfin, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu en pay-per-view un bon gros match ultra quali, un contre un comme ça. Pas de stipu, pas de bordel, rien. Juste deux gars qui maîtrisent parfaitement leur art. Et qui nous ont offert, j'ai beaucoup apprécié ce match. J'ai vraiment pris pas mal de plaisir. Et je me dis, ça fait du bien de voir AJ Styles gagner, parce que j'ai plutôt, peut-être à tort, je ne sais pas, mais j'ai plutôt quand même souvenir que globalement, il n'était pas forcément du bon côté de la pièce sur ses derniers 1 contre 1 et sur ses dernières rivalités. Donc de le voir prendre une jolie victoire de prestige, eh ben, ça lui fait pas de mal, parce qu'il est quand même depuis quelques années plus souvent là quand même pour faire le job que glaner les victoires, ce qui est globalement logique. Mais dans cette rencontre, ça me choque pas qu'il l'emporte, et ça ne me choquerait pas que derrière ça aboutit justement à réengager le 3v3 ou le 4v4, et que le Judgment Day justement puisse là, dans cette configuration là, un petit peu plus briller. Bon petit boulot des deux là.
Finn Balor qui a tenté de placer la prise de finition de...
Ah oui, il a pêché par orgueil.
Le Styles Clash, j'allais dire le truc où il faut bien relever la tête.
Il faut bien relever le menton là.
Ouais.
c'est le relève menton, on l'appelle.
Relève-menton. Et donc un match classique, tu as tout dit, qui nous a permis d'enchaîner derrière avec la division féminine qui était ce soir représentée, en ce qui concerne en tout cas les titres majeurs, par l'affiche de Weekly, Ronda Rousey versus Shotzi. Ouais. Un match qui n'a pas duré très longtemps. C'est probablement un de ses mérites majeurs.
Oui.
Ronda Rousey qui arrive à accompagner de sa poteau Shayna Baszler. Et puis Shotzi qui fonce dans le tas, hein, parce qu'elle se dit je vais pas avoir 36 000 chances, 36 000 occasions d'affronter Ronda Rousey, peut-être même pas forcément 36 000 occasions d'avoir un title shot dans cette division, donc on se rentre dans le tas direct, mais elle se fait rapidement quand même tourmenter, hein. Shotzi, elle se fait notamment, elle se bouffait un ankle lock, plutôt dominante, hein. Ronda Rousey, Shotzi qui joue l'underdog un petit peu ultime, hein. C'est pareil, elle rechigne pas à la tâche, hein. Shotzi, c'est plutôt, elle rentre dans le tas, tout, c'est pas très propre, hein, ce qu'elle fait, il y a beaucoup de déchets, mais elle a la patate. Elle saisit l'opportunité qu'on lui donne, mais c'est un match un petit peu à sens unique, malheureusement pour Shotzi, qui va réussir à se débarrasser de Baszler à l'extérieur. Elle aussi, elle les balance à un moment donné dans le public, enfin, du public, un faux public, hein, parce que c'est trois mecs oui. du Performance Center qui avaient leur
chaîne. Vu la taille des biceps, j'ai, j'ai trois, vu trois au début, gros, je me suis dit, oula, dis donc.
Trois chads.
Trois gros chads, là. Ouais.
Qui ont leur chaise dans l'allée, en plus, toi, c'est clairement pas des places officielles, parce qu'ils ont été mis dans l'allée. Et donc,
c'était pas très bien foutu.
Non, c'était nul, c'était nul. Franchement, c'était naze. C'est assez... Ils peuvent faire mieux. Hein. Ils peuvent faire des plans comme, ouais. des plans comme ça, mais ils peuvent faire mieux. Quoi. Franchement, ils sont vraiment pas foulés hein, pour ce match. Il faut le dire. Et puis, bah, on a Ozzy qui revient pour placer sa prise de soumission pour la victoire. Assez bon, voilà, attendu et classique. Et puis qui aurait mérité, enfin qui avait sa place dans un pay-per-view, mais en même temps ça a permis de faire un petit peu de remplissage, donc bon.
Yeah. Oh ouais. Écoute, voilà, pas de surprise, c'était pas bon, s'il y a des fans, j'imagine qu'il doit y en avoir quand même quelques-uns, s'il y a des fans de Shotzi. Qui nous écoute, tout ça. Bon, bah écoute, j'espère que vous avez bien profité, parce que c'est sans doute la première et la dernière fois que vous la verrez, à mon avis, en pay-per-view. Enfin, en tout cas, dans une configuration pareille. C'est vraiment, c'est très 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 faiblard. Tu l'as dit. En fait, il y a un sentiment de c'est brouillon en fait quand tu la vois catcher, c'est très brouillon et ne venez pas commencer à me dire oui mais c'est son personnage, elle est comme ça, c'est une métalleuse, c'est le bordel, c'est enfin voilà, elle c'est une die hard, tête brûlée,
juste faire des pogos.
Enfin, ouais, c'est une grosse die hard, elle fait n'importe quoi, c'est son style et tout, enfin OK, c'est son style, bah écoute, tant mieux si c'est son style, mais t'inquiète que à mon avis on verra plus ça. Et donc c'était vraiment pas du tout agréable à regarder. Et puis le problème, c'est que forcément mais ça c'est quelque chose qu'on avait déjà dit et plusieurs fois hein, mais Ronda aussi c'est très compliqué dans le ring. Sans stipulation, en 1 contre 1, comme ça, c'est très compliqué, c'est pas une surprise.
Ah non.
Ça l'a toujours été, et malheureusement, ces seuls 1 contre 1 vraiment sympas qu'on retient, bah c'est des 1 contre 1 contre Charlotte Flair. Mais il y a une raison pour ça, hein. Il n'y a pas de mystère, c'est parce qu'elle est face à des adversaires excellents. Même c'est 1 contre 1 contre Natalia, hein, tu vois tout de suite la différence. Parce que elle est face à des nanas qui la portent hein, concrètement dans le ring, qui la mettent sur ses épaules et qui l'emmènent vers un bon match. Sauf que elle est absolument incapable de faire ça. Et donc, bah, quand on lui envoie des Shotzi dans les pattes, et ben ça donne ça. Et quand on lui enverra dans 2 mois Raquel Rodriguez dans les pattes, bah, ça redonnera ça. Et ouais, c'est un peu cata, donc j'espère que ce titre, ce run de championne pourra peut-être être magnifié, on va dire, par cette association naissante, qui on a presque tous envie de dire enfin, avec Shayna Baszler, elles peuvent faire un duo intéressant, et le jour où elles perdront la ceinture, se rediriger assez naturellement vers la scène tag team et peut-être semer la terreur à ce moment-là et être tout à fait crédible dans ce rôle-là. Mais en attendant, Ronda Rousey en championne, c'est plus que pénible. Et en plus, quand tu lui fous une nana qui, enfin, je me demande ce qu'elle fout là. Bah là, du coup, ça fait un match qui pour moi n'a vraiment pas sa place sur une carte de pay-per-view et qui faisait plus que tâche. Ouais.
Effectivement, c'était nul. C'était nul. Je vais être assez honnête, effectivement. Est-ce que rajouter une stipule aurait servi à grand chose? Je suis même pas sûr.
Je sais pas. Ouais, peut-être, parce que ça fait toujours un peu cache-misère. Elles auraient pu péter des tables, des trucs et tout comme ça, mais bon, c'était pas l'objet du pay-per-view parce que la fourniture IKEA était déjà bien sollicitée en début et en fin d'émission.
C'est ça, on gardait pour les autres, donc on gardait pour les copains.
Ah, ils n'avaient pas assez là. Je pense qu'ils n'avaient pas assez.
Un peu un match post-pipi à l'ancienne. Hein.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai match post-pipi comme ça, je pense. Hein.
J'espère que vous avez bien fait pipi, parce que ce qui a suivi, il fallait être devant son écran et il ne fallait rien louper pour les 2 derniers matchs de la soirée, dont cette triple frite entre Seth Rollins, champion US, Bobby Lashley, Austin Theory pour le titre donc américain, titre US, une belle triple frite là, avec du costaud, avec du bonhomme. Et ça commence direct avec Bobby Lashley qui fout une grosse clothesline sur Austin Theory, qui l'éjecte du ring, là il est complètement sonné. On voit pas ouais. trop. Après, il essaye d'en revenir, puis c'est Rollins qui l'éjecte à nouveau. Donc, il reste plus que Visionnaire, le Almighty, hein, qui doivent s'affronter entre les deux. Donc, la grosse baston entre les deux hommes. C'était plutôt bien amené. Chacun bon, se retrouve un petit peu à tour de rôle à l'extérieur pendant que les deux autres bossent. C'était un petit peu mécanique aussi, mais plutôt fluide. Et notamment quand on va arriver sur la fin, où là, on a un petit bijou. De storytelling et d'enchaînement. Lashley qui essaye de placer Rollins dans le Hurtlock et Theory qui débarque. Les deux d'ailleurs vont se retrouver dans le Hurtlock. Après, il a réussi à placer les deux hommes dans le Hurtlock. Theory donc il fait le sleeper pour casser ce fameux Hurtlock sur Rollins. Rollins qui place une superplex sur Theory. Et après, il y a le qui le place donc pour faire une Falcon Arrow et Bobby Lashley qui fait un gros spear, mais c'est bien Austin Theory qui va faire le tomber par réflexe quasiment. Hein, à moitié physique, ouais, à moitié une petite réflexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête.
Sursaut, c'est son. Ouais, j'ai presque l'impression que son corps a eu un instinct. Ouais, c'est ça. Exactement.
Et il place sa main sur Seth Rollins. 1, 2, 3, victoire d'Austin Theory qui récupère son titre champion US pour la deuxième fois. Incroyable, un match qui a été vraiment émaillé, voilà, de super spots également. On a eu des dives de Seth Rollins, là on n'en plus finir, à droite, à gauche, il n'arrêtait plus. Ça flippe sur les cordes dans tous les sens. C'était assez incroyable. On a eu pas mal aussi. Et puis alors attends, ce stomp aussi, ça dont je n'ai même pas parlé, c'est que on a eu la séquence dans cette séquence finale. Rollins qui s'est retrouvé avec les deux hommes à terre à quatre pattes. Il s'est dit, il a vu, il s'est dit, il s'est pas dit la chenille, il s'est dit le curb stomp. Et donc il a sauté sur Austin Theory pour après éclater la tête du pauvre Bobby Lashley. Et c'est là après que c'est enchaîné l'autre séquence. Mais c'était assez incroyable. Le petit éclair, là, dans la petite lumière dans le regard de Seth Rollins, le gros vicelard, qui a vu cette belle opportunité une fois de plus détruire la tronche de ses opposants. Écoute, mon bro Giscal, quel match!
Ouais, quel match! Ouais, je suis bien d'accord. Écoute, j'ai adoré ce triple threat. Je l'ai trouvé un petit bijou, notamment cette séquence finale, tu l'as dit, c'était fantastique. C'était d'une fluidité, tout cet enchaînement-là, c'était vraiment magnifique. Et ouais, une très très jolie. Très très jolie partition des trois dans des styles vraiment différents avec un Theory beaucoup moins chien fou. C'est intéressant, tu sens qu'il y a une petite évolution même dans son catch. Beaucoup moins chien fou, beaucoup moins naïf, un peu plus méthodique, un peu plus pervers. Il prend le temps parfois de sortir du ring, de laisser les autres se foutre un peu sur la tronche. Bobby Lashley qui a parfaitement déroulé sa partition de bulldozer. Et d'ailleurs, je trouve le finish assez beau dans ce sens, hein, de presque Lashley qui est trahi par son excès d'engagement, son trop-plein de puissance, finalement. Voilà, lui, il est là pour déboîter des tronches, et ça lui a coûté d'une certaine manière, parce que, imprécis, le Bobby Lashley.
Bobby Lashley qui a dû avoir un petit cauchemar, parce qu'on a eu un beau rappel à son match face à Brock Lesnar, avec justement, c'est aussi une théorie qui a tenté de refaire la... le même coup à Bobby Lashley que l'avait fait Brock Lesnar en poussant depuis le turnbuckle pour faire un tomber un peu à la filou. C'était sympa ça aussi.
Absolument. Mais donc ouais, ce finish du coup est vraiment sympa. Seth Rollins qui a un catch et de manière générale un personnage, j'ai pu en parler un peu sur le Discord, mais c'est vrai qu'il a un personnage qui est très particulier et ça déteint même sur sa façon de catcher aussi, parce qu'il... Il y a des moments, tu savais plus s'il était face ou s'il était heel. C'était tellement, tellement flamboyant. Moi, j'ai adoré, là, à un moment, il enchaîne trois suicide dives à la suite, où il va à droite, à gauche, à droite. C'était incroyable. Enfin, tu sens qu'il est complètement, là, il est habité. Enfin, moi, je trouvais que Seth Rollins, d'un point de vue purement catch, hein, sur ce match, c'était vraiment le MVP. Il a été fantastique. Il a bumpé comme un dieu pour les deux et il nous a proposé des séquences de fou. Et au final, voilà, ce finish qui, je trouve, coche tout un tas de cases avec ce Bobby Lashley qui paye son excès en quelque sorte, son trop-plein de puissance et aveuglé tel un taureau qui fonce sur le torero là. Ce Seth Rollins qui était en maîtrise presque jusqu'au bout. Mais qui finalement a été peut-être un peu trop gourmand. Lui qui avait réclamé ce match de ses vœux et qui faisait un petit peu trop le malin, c'était les prix qu'il croyait prendre. Il s'est fait avoir et en même temps il garde des raisons de ne pas être très content de ce finish. Et Austin Theory qui ça paye, voilà, de peut-être. Ça valide son discours, c'est d'une certaine manière, cette victoire valide son discours, valide son changement de position, et ce catch peut-être un petit peu plus sage, un peu plus réfléchi, et un petit peu de chance, là voilà, un petit coup de chance, un petit coup du destin, un petit coup de pouce, comme si finalement, tu vois, d'une certaine manière, l'univers un petit peu validait sa stratégie. Donc je trouve que le finish vraiment sympa à bien des égards, et très honnêtement, je ne l'avais pas vu venir, hein. C'est là pour le coup, pour moi, c'était une vraie grosse surprise. Je pensais qu'on prendrait peut-être un petit peu plus son temps avec ce virage opéré avec Theory. Peut-être avec une défaite et pourquoi pas une petite feuille de transition avec Bobby Lashley qui aurait pu être un joli rappel au début d'année, où il aurait peut-être pu cette fois l'aborder différemment et la gagner et retourner et redevenir champion. Mais en même temps, on l'aura aussi suffisamment reproché, moi le premier, de peut-être pas assez battre le fer pendant qu'il était chaud avec Theory. Donc, je vais pas non plus reprocher pendant des semaines et des semaines d'avoir traîné avec Theory pour au final, là, se précipiter un peu à mon goût. Ce serait un petit peu hypocrite. Donc, on va dire que en effet, le travail est rempli et j'ai vraiment maintenant extrêmement hâte de voir ce nouveau chapitre et ce nouveau Theory avec cette ceinture. Qu'est-ce qu'il va nous proposer maintenant qu'il a pu son smartphone et toutes ces conneries Ce nouveau champion, qu'est-ce que ça va être? Ça va être intéressant.
Voilà, il faut te décider, hein, Giscard. Tu peux pas aller reprocher.
C'est ça. Au bout d'un moment, je peux pas tout avoir. Sinon, c'est trop facile. J'ai tout le temps raison. Il suffit que je dise,
Il y a bien quelque chose qu'on ne veut
ils
pas.
Fait...
Giscard est tout le
ils
temps.
Ils ont fait comme je voulais pas. Ils ont pas fait comme je voulais. C'est des connards. Ils ont fait comme je voulais. C'est tout bon. À un moment, faut que je me décide.
Ouais, une super affiche là, avec un résultat. Effectivement. Pouvait être surprenant vu la rapidité à laquelle on... Enfin voilà, vu, comme tu l'as dit, le temps qu'ils ont pris pour faire basculer Austin Theory sur ce nouveau gimmick, hein, ce nouveau visage, ils ont enchaîné derrière et donc on assiste, hein, vraiment...
Ils ont assumé.
Ah ouais. Comme le dit notre ami Raphaël, le plus bel enterrement que quelqu'un puisse connaître. Hein. Là, c'est assez incroyable. On va enchaîner avec le main event, mais avant ça, quelques petites séquences backstage qui ont eu lieu dans le vestiaire de la Bloodline, mon bon Giscard. Pas des moindres, puisqu'on a construit l'histoire qui allait nous être narrée dans cette fameuse cage et ces deux rings ce soir. On a eu deux séquences, n'est-ce pas, dans les vestiaires de avec Roman Reigns, ou peut-être trois.
Premier épisode avec Jay.
Jay qui va dire mon bon chef tribal, j'ai surpris Sami Zayn là, discuter avec Kevin Owens, il va nous la mettre à l'envers. L'autre qui lui dit, écoute, je vais faire venir Sami Zayn, je vais le regarder droit dans les yeux, je vais lui demander, je verrai tout de suite s'il me dit la vérité. Bon, un petit peu plus tard, Sami Zayn est convoqué, il arrive, alors, soit sous le regard du wise man, hein, Paul Heyman, qui était tout au fond.
Tu le voyais, tel un génie maléfique là derrière, c'était drôle.
qui analysait la situation. Et donc, Sami Zayn, on lui demande, hein, Rome, le chef tribal, tête de la table, lui demande alors, grosso modo, où est ton allégeance, hein, est-ce que tu... je crois en la famille, c'est le sang, c'est plus important que tout. Sami Zayn réussit un premier test, je dirais, en étant honnête et en disant la vérité. Déjà, il n'a pas cherché à mentir, il aurait été un petit peu fou de toute façon. Donc effectivement, il avait croisé Kevin Owens et qu'il ne voulait pas... Jay, en ce moment, il pense à beaucoup de choses, il ne voulait pas embêter, il voulait gérer le truc pour pas que Jay se retrouve trop embriqué là-dedans. Donc ça partait d'un bon sentiment et que il prête allégeance, il réaffirme son alignement, il fait partie de la Bloodline, voilà, tout simplement, c'est Sami Zayn, c'est Sami Uso, quoi. Ok, d'accord. Oui. Ok. Et un peu plus tard, c'est ça, il y a une autre séquence avec Jay, entre Jay et Roman Reigns.
Il revient pour savoir ce qui s'est passé.
Alors
et là, alors, chef.
Et là, Roman Reigns, je sais plus, tu peux me rafraîchir ma mémoire, qu'est-ce qu'il lui dit?
Il lui dit, c'était ça, c'était assez mystérieux, du coup, il lui dit, écoute, Jay, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Voilà. Donc, concentre-toi sur le match. et apparemment, ça lui allait à Jay, il était OK, il dit OK, bah, c'est bon alors.
petit point important, Sami Zayn et Jay auront droit tous les deux à un câlin, chef.
Oui, hein, oui, absolument.
Qui peut s'apparenter à un baiser de la mort, hein, dans les histoires de parrains et de mafia et compagnie. Souvent, quand le chef, qui souvent ne se laisse pas aller à faire preuve de beaucoup de sentiments, te fait un gros câlin pendant la communion de la petite, en général, on te retrouve avec trois cailloux. Deux balles dans le dos, les bras attachés, et c'est les flics disent que c'est un suicide. Donc en général, donc quand j'ai vu ça, ça rajoutait un peu d'intrigue. Tu t'es dit, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être le sort de nos deux zigotos? Alors, ce War Games, donc hein, les mêmes règles évidemment. C'est Boubouch qui va entrer, donc un choix plutôt judicieux parce que le mec est complètement fou. Et surtout, c'est son quatrième War Games. Il a fait tous les Wargames NXT.
Ah, c'est impressionnant.
Ouais, donc voilà,
il y en a déjà eu autant que ça, oui, d'accord.
Est-ce qu'il y en aura un cinquième? Je ne sais pas. Si c'est Giscal qui book, certainement pas. Mais comme ce n'est pas Giscal qui book, bah peut-être. Hein.
Malheureusement. Hey.
C'est pas trop encore. Même si je croyais des rumeurs comme quoi, c'est pas sûr qu'ils en fassent comme ça au Survivor.
Ah, je pensais que tu allais tirer des rumeurs comme quoi Giscal va peut-être booker.
Non. Et c'est Jay aussi. Déterminé, Jay qui arrive. Et le match débute, mais pas vraiment, hein, mon beau Giscal. Les deux hommes se regardent comme des cons pendant 2 minutes,
ah oui.
Comme des chiens qui en laisse.
Non, parce que bon, on a trashé les filles, mais bon, on pourra aussi quand même, hein, parce que ça, c'est pas mal, hein, ça, le coup de... le mec, ils sont un contre un, et tu sais, t'as Jey Uso, j'avais envie de lui dire, tu sais que dans 3 minutes, là, tu vas te faire défoncer à 2 contre 1, tu pourrais peut-être te grouiller, quand même. Ça avait pas l'air de l'exciter.
Ouais. Non, c'était assez étrange. Alors, effectivement, on nous dit que l'autre, c'est son quatrième Wargames, donc il y a l'intelligence, il veut faire venir l'autre pour que l'autre aille dans les cordes, et c'est ce qu'il finit par faire, Jay.
Ouais.
Il passe les cordes, et puis bah, il se fait cueillir, évidemment, puis il se fait péter tous les doigts, les uns après les autres. D'ailleurs, je sais pas comment il a fait, hein, pour pouvoir ne serait-ce que ouvrir la porte des toilettes, là, ça doit être compliqué. Il a sûrement besoin d'aide, ou même pour la tenir. Je pense que c'est Sami maintenant qui lui tient quand il va aux toilettes. Certainement.
Peut-être.
Je ne sais pas.
Sans doute, maintenant. De toute façon, oui, maintenant qu'ils sont si proches.
Oui, on verra. Oui, voilà, ils vont être très, très, très proches. Donc voilà, le match finit par commencer. C'est vrai que c'est un petit peu étrange. Mais ça finit par commencer. C'est à ce moment-là Jimmy qui veut entrer en premier, parce que non, il y a d'abord Ridge Holland, hein, qui
oui, Ridge,
hein, Ridge the Fridge,
les gentils qui ont l'avantage,
voilà, ouais. qui ont exactement la team des Brawling Brutes Co qui ont l'avantage, donc numéraire pendant le match. Et donc c'est Ridge qui rentre et puis qui fait son gros costaud. Il est quand même tout gonflé, hein, ce Ridge the Fridge. C'est assez impressionnant.
C'est un sacré fridge, ouais.
Un sacré frigo. Et après c'est Jimmy qui entre, et Jimmy lui, il arrive et il ramène des tables. Son truc, c'est les tables. On parlait des filles qui amenaient du matos, les gars aussi.
Alors non, justement, c'est pas Jimmy qui rentre, là. C'est Sami Zayn.
Oui, pardon. Jimmy veut entrer.
Jimmy veut entrer.
Là, et c'est marrant parce que pendant ce temps-là, en fait, Roman Reigns était assis dans la cage. Tel un chef qui surveille, un chef de clan. Il était, enfin, pas vraiment... Oui, si, il était assis. Il était assis à observer. Qu'allait se passer. Il y avait d'ailleurs, quand il y avait les entrées, quand ils entrent dans la cage, c'était plutôt bien foutu. Quand tu avais Solo Sikoa, là, ça j'en ai pas parlé, mais parce qu'ils entrent les uns après les autres. Sauf que ceci pour la Bloodline, ils sont tous entrés en même temps, c'était vraiment formidable. Et Solo Sikoa qui se mettait devant la cage comme ça, des gentils qui étaient déjà enfermés, qui faisait un petit peu le chien là, de garde, qui regardait pendant que les autres entraient les uns après les autres. Et donc Roman Reigns, pop, qui arrête Jimmy, qui envoie
bien
Sami Zayn. Ouais, Sami Zayn, il veut voir
ce qui se passe. Et oui, le message, ouais, il veut voir.
Il veut voir comment ça se passe avec Jay. Ça se passe pas ouf, hein, mon bon Giscard, et surtout du côté de Jay, hein, Jay qui fait pas beaucoup d'efforts, hein, qui fait pas beaucoup d'efforts pour travailler avec Sammy, alors que Sammy, lui, il fait tout pour travailler avec Jay, et ça se dispute pas mal, hein, mon bon Giscard. Ils se sont disputés pas mal, il y a eu quelques passages un peu chauds, là, entre les deux.
Bah ouais, il y a eu même quelques gros loupés, ouais, en effet, donc c'était intéressant ce début de match avec ce Roman Reigns qui veut envoyer un message d'une certaine manière, ou en tout cas il veut tester, c'est sa façon peut-être de tester la loyauté de Sami Zayn, c'est dire hop hop hop, vas-y, bah écoute, on va voir comment tu te débrouilles. Pas d'artifice, pas de façon de se replier, ils sont vraiment à deux contre deux, donc c'est maintenant ou jamais. Et ils vont être dans quelques instants à 2 contre 3, donc c'était bien foutu, c'était vraiment intéressant, et voilà, ça ne fonctionne pas, en tout cas en début de match, ça ne fonctionne pas.
Non, ils en viennent même à se mettre sur la tronche, hein, puisqu'entre-temps, Jimmy arrive également, avec les fameux stables qu'il fait entrer, il est obligé de séparer son frère et Sammy, là, qui commencent à se mettre sur la tronche, hein, au mot jusqu'à, hein, même Sammy, là, Jay est tout rouge.
Et il dit, au bout d'un moment, j'en ai marre, quoi.
C'est ça. Tu veux pas bosser avec moi, ben attends, c'est bon. Et donc, c'est la bagarre, et du coup, les babyface en profitent, évidemment, pour reprendre le dessus, donc ça ne fonctionne pas trop à ce moment-là. Jusqu'à, je sais pas toi, mais je me dis, mais les deux vont être mis à l'amende en fait. On ne teste pas juste Sami Zayn, on teste également Jay, et c'est à se demander Roman Reigns ne va pas bannir. Hein, toi, je dis, mais attends, si c'est le test pour les deux, hein, ça ne colle pas.
D'où d'ailleurs le rappel de, comme tu l'as bien dit, hein, des câlins aux deux. Oui. Avant le match, hein, tu sens qu'il y a, voilà, c'est pas, il y a pas que Sami Zayn qui est dans la balance, donc c'était en effet assez intéressant.
Ouais. Après, on a Drew McIntyre, hein, qui vient refaire le nombre. Drew McIntyre qui va dérouler, hein, voilà, selon son arsenal. Qui c'est qu'on a après? Donc on a eu Drew McIntyre qui
donc on a Solo, parce qu'il reste
Solo qui arrive également là, qui fait des beaux face-off, hein. Solo, c'est le roi du face-off, hein. Il arrive, il fait un face-off à Drew McIntyre, un peu plus tard il fera un face-off avec Sheamus, c'est le bulldog, il retourne tout, il tabasse, il explose. Ensuite on a Kevin Owens qui va entrer. Kevin Owens qui est habillé en Dusty Rhodes, avec un t-shirt Dusty Rhodes.
Très joli t-shirt.
Et qui donc prend une des chaises, lui vient avec des chaises, et puis il tabasse tout le monde, et puis sauf à un moment donné, il se retrouve face à Sami Zayn, et là, il hésite à frapper Sami Zayn avec l'échelle. L'énergie commence à monter, donc on a eu Solo Sikoa qui est entré, et puis après c'est Sheamus qui vient tout nettoyer. Alors Sheamus, il nettoie tout, hein, il met des gros kicks dans la tronche, jusqu'à ce que Roman Reigns débarque au bout de 30 minutes.
Ouais, c'est ça, il a ramassé les morceaux.
Voilà. Et Roman Reigns qui arrive, sous les vivas de la foule, évidemment, qui entre. Et alors là, Roman Reigns, il nettoie.
Il nettoie.
Oh la vache, il met des claques dans les tronches à tout le monde. Le Superman Punch pour Sheamus qui va être le premier un petit peu loupé, hein, le premier dérapage, parce que Sheamus... Le récupère, et tout le monde se retrouve un peu plus tard là dans les cordes, et c'est le tambour de guerre, ça c'était une image fantastique, le tambour de guerre, la prise de Sheamus, hein, qui tambourine le torse de son adversaire. Ils se retrouvaient à 5, les 5 à le faire, c'est entre les rings, c'était formidable, une belle image, tout comme on a eu une image de face-off en 5v5 qui était plutôt cool quand même aussi. Sheamus qui broke kick Solo Sikoa, il se fait spear par Roman Reigns pour le compte de deux, parce que ça se fait péter. Butch qui je sais plus ce qu'il fout là, qui se prend la tête avec Sami Zayn, et là c'est le dérapage. Jay qui veut super kicker Butch, mais qui super kick Sami Zayn.
Et oui,
Dérapage, dérapage. Et là, pire encore, parce que Jimmy dit, attends, qu'est-ce que t'as foutu? Vas-y, faut l'aider. Le Jay, on s'en fout. Il casse les couilles, celui-là. Il fait pas partie de la Bloodline. Donc, genre, il l'abandonne, quoi. Il abandonne Sammy au combat. C'est pas génial. Le Spear sur Ridgelon à travers la table. McIntyre qui revient pour une petite baston avec Roman Reigns. La Powerbomb à travers la table avec Sikoa. Qui passe Drew McIntyre à travers la table, hein, c'est ça, hein, c'est quoi qui passe Drew McIntyre à travers la table, je crois. Kevin Owens et Roman Reigns qui se font un petit face-off avec des super kicks, le pop-up power bomb, le stunner. 1, 2, et pas 3, puisque Sami Zayn arrive et empêche l'arbitre de faire le tomber jusqu'au bout, mon bon Giscal. Sami Zayn a choisi son camp. Owens, Sami Zayn se regarde. Les fans qui chantent Sami Uso, hein, le peuple de catch-up et le peuple du catch en général est derrière Sami. Jay qui tente le super kick, mais c'est bloqué. Et Sami Zayn en profite pour faire un low blow, un gros coup de poing dans les couilles. Un petit peu plus tard, le hell of a kick qui vient finir tout simplement Kevin Owens. Sami Zayn et Jay se regardent. Sami offre Kevin Owens en sacrifice à Jey Uso, preuve ultime qu'il a fait la paix. Il est là pour la paix avec Jey, et Jey accepte cette offrande finalement, et il saute le superfly, ouais. Le splash, 1, 2, 3, Kevin Owens est couché, Jey fait le tomber, la Bloodline ressort vainqueur de ce match, et la Bloodline accepte Sami Zayn pour de bon, y compris Jay qui, alors là, bondit de joie, il a retrouvé le sourire, il saute dans tous les sens, il fait des bisous à Sami Zayn, c'est magnifique.
C'est la liesse, les scènes de liesse.
Ouais. Liesse générale. Et puis un dernier petit plan plutôt bien foutu, on voit Jay et puis Sami et puis le regard de Roman Reigns envers Kevin Owens qui garde un petit œil quand même sur toute sa Bloodline. Et là, donc, on clôt ce chapitre, Sami Zayn et Jey Uso, qui aura duré des mois et des mois, et on en ouvre un autre, un chapitre où la Bloodline ne fait qu'une. Ils sont 5, 6, ils ne font qu'une. Il n'y a plus d'embrouille à l'intérieur de la Bloodline. C'est l'histoire qui nous a été racontée. D'ailleurs, avant de te laisser la parole, mon bon Giscal, petit fait amusant, tu as remarqué que pour les replays, parce que tu as toujours un replay, les replays des moments forts, Du match, en l'occurrence des 40 minutes de Wargames, tout était focalisé sur Sami Zayn. Il y a eu 5 séquences de replay, c'était l'histoire de Sami Zayn tout au long du match. Ce Wargames, c'était l'histoire de Sami Zayn.
C'est ça, exactement. Peut-être à la fois le gros avantage et peut-être aussi le défaut pour certains de ce match, c'était que c'est vrai que c'était 40 minutes quasiment intégralement focalisées sur Sami Zayn. Alors moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était magnifiquement fait, exécuté. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Il a un talent fou pour véhiculer vraiment des émotions, que ce soit par ses expressions faciales, son catch, sa façon de se positionner, les moves et tout. Enfin, c'est vraiment, je trouve, une véritable masterclass là. Donc, j'ai trouvé ça captivant et en fait, ça m'a vraiment aidé à faire passer les 40 minutes. Hein. C'était une vraie petite histoire. C'était un épisode et a fortiori l'épisode final de cette saison en quelque sorte de la Bloodline qui est devenue presque une sorte de show à eux tout seuls, hein. c'est aussi un petit peu ça la morale de ce truc là, c'est qu'ils sont capables maintenant de meubler autour d'eux intégralement des matchs de 40 minutes et presque quasiment des pay-per-view entiers parce qu'il y a eu toutes les vignettes et tout juste autour d'eux et ça nous fait plaisir. Et donc voilà, ce season finally, la Bloodline est enfin, ne fait plus qu'une, a semble-t-il mis derrière elle tous ces problèmes, toutes ces tensions. Et cette scène à la fin de Lies, c'est marrant parce que cette connexion qu'a Sami Zayn avec le public, d'une certaine manière, où on est en train presque. Enfin, moi j'étais trop content à la fin, tu sais, de le voir sauter comme un cabri, de se dire ça y est, il est enfin accepté. Et c'était tellement bien fait que tu ne peux être que content pour lui, d'une certaine manière. Et c'est d'ailleurs ce que le public a un petit peu véhiculé. Hein. Il y avait une pop, alors que au final, il a trahi. Il a trahi son ami de toujours, bon, qui est loin d'être un enfant de cœur, hein, Kevin Owens, mais il a trahi un petit peu son compagnon de toujours en lui mettant un coup dans les valseuses. C'est le move de heel ultime. Et au final, on célèbre presque cette victoire de la Bloodline. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est plus que paradoxal, quoi. C'est vrai que c'est là on touche avec la Bloodline, on touche à quelque chose de presque de d'irrationnel avec ce qui se passe en termes de réaction. C'est un groupe heel, c'est un groupe qui a les faveurs du public, on a envie de les voir partout. C'est assez exceptionnel. Et donc bah ouais, écoute, ils ont fait en sorte que ce match soit en tout cas en ce qui me concerne très agréable, et j'ai pas du tout vu le temps passer contrairement à l'opener, malgré le fait qu'il y avait sensiblement les mêmes écueils en termes de construction. Cette première phase de match qui, s'il n'y avait pas eu Sami Zayn, en effet, je pense, aurait été sans doute assez pénible également, parce que on n'a pas vraiment joué le jeu des avantages non plus. J'ai pas trouvé ça extrêmement cohérent. Il y a eu beaucoup de phases. Il y a eu quelques phases mortes. Il y a eu moins de temps mort, on va dire. Il y a eu moins de flottement quand sur des trucs qui étaient un petit peu. Pas le point focal, tu voyais quand même que de temps en temps sur des plans larges, les mecs se foutaient quand même sur la tronche quand ils n'étaient pas en train d'être filmés en direct. Donc il y avait quand même un match qui était un petit peu mieux fait, un peu mieux plus organique, mais ça restait quand même un petit peu difficile à suivre, je trouve, jusqu'à le début et le sonnage de cloche au bout de 30 minutes, là, enfin 25 minutes, avec ce face-off assez impressionnant, là, des 5 contre 5, même si peut-être que certains. Un peu cynique pourront dire bah oui, bah du coup on a vraiment pas eu le sentiment qu'il s'était démoli pendant 25 minutes, parce que c'est vrai qu'il y a
25 minutes de catch. T'as peut-être un ouais. Mec qui je crois que c'était Jimmy, je crois, qui vendait vraiment,
ouais, qui est un peu, ouais, qui vendait un peu le truc.
Il a vu les autres qui allaient, ouais. Oh, il s'est relevé, fait, oh, ça va en fait,
ouais. C'est ça, t'as 25 minutes de guerre entre guillemets, et puis après t'as les 5 contre 5 qui se relèvent, ils sont là, bon allez, on commence. c'était un petit peu l'impression que ça donnait. Mais bon, j'ai tendance à plus facilement mettre mon mouchoir sur ces petits défauts qui étaient un peu moins flagrants quand même, je trouve, chez les mecs, parce que bah voilà, c'est servi par une qualité qui est globalement bien au-dessus, j'ai trouvé, au niveau du catch, des spots, de l'intensité, de l'utilisation des objets, parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas trop parlé, mais enfin. Je trouve que les kendo sticks et les couvercles de poubelle en plastique, là, c'est vraiment pas les armes les plus impactantes qu'ils aient à la WWE. Là, on a eu les bons gros coups de chaise bien sales, on a eu les tables compétées. Enfin, je sentais que c'était peut-être quand même un autre calibre. Et puis, cette histoire, ce fil rouge, quoi. Donc c'était super plaisant. J'ai adoré. Et puis bah maintenant tout est possible, hein. C'est ça aussi qui est sympa. On l'avait dit, hein. Est-ce que ce sera le face turn de Sami Zayn? Est-ce que ce sera le heel turn, en quelque sorte, la confirmation du heel turn de Sami Zayn? Il y a quelque chose qui transcende presque encore ça, tu vois. Ça va plus loin, je trouve. Et là ils ont le monde est à eux, hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la Bloodline. Il y a beaucoup de pistes qui sont possibles. Et j'ai hâte de découvrir maintenant quel va être le nouveau chapitre de cette histoire, et c'est vrai que j'aime bien dans les pay-per-view quelque chose qui manque un peu parfois, et j'aime bien quand les pay-per-view se finissent aussi sur vraiment un vrai finish, une vraie fin,
ouais.
Et là maintenant on a envie de regarder l'épisode, pas parce que bah il y a des questions en suspens, il y a un cliffhanger et tout, on a envie de regarder la suite parce que bah maintenant voilà, on veut savoir what's next, hein, c'est quoi c'est quoi maintenant l'avenir de la Bloodline, il va falloir trouver autre chose, et donc je suis très très impatient.
Écoute, c'était effectivement la bonne surprise. Là d'ailleurs, on verra après, on en parlera au prono, le piège dans lequel il ne fallait pas tomber, c'était d'imaginer que ce match allait servir à planter des graines, à relancer en fait des rivalités, que ce soit par exemple avec Sheamus ou même avec Kevin Owens, même si Kevin Owens, avec ce qui s'est passé sur la fin, peut-être que Roman Reigns va avoir envie de
le punir encore. Il va y avoir des choses, c'est sûr.
Mais on était focalisé sur raconter la fin de ce premier tome, de ce premier chapitre, appelez-le comme vous voulez, autour de cette Les problèmes internes, en fait, hein, à la bloodline entre Sami Zayn et Jay, et puis de ce Roman Reigns qui est un bon chef, toi, est un bon chef. Il fait beaucoup de management pour réussir à. Il le dit, c'est sa famille, c'est le sang, c'est important. Donc, il essaye de trouver des solutions. Alors, la solution, c'est d'envoyer les mecs au charbon pour se détruire et voir s'ils arrivent à s'entendre au milieu de 40 minutes de violence. Mais bon, c'est le catch. Donc, en même temps, voilà, les mecs vont pas faire des gommettes. Ah, c'était franchement bien raconté. Et moi, j'étais agréablement surpris parce que je l'avais pas forcément. Entrevu totalement qu'on allait avoir ce chapitre totalement clos en fait entre Sami Zayn et Jay, et franchement de voir Jay à la fin avoir le gros sourire et bondir sur Sami, ça, je m'y attendais pas du tout en fait qu'on allait à ce point toucher la fin de cette histoire, et j'ai trouvé ça vraiment super quoi, vraiment super, parce que
ouais.
Bah mine de rien ça fait quand même des mois et des mois qu'on nous raconte cette histoire, alors. Et on nous la raconte bien. Il y a quand même un talent d'écriture qui est dingue. Tu as raison. Je pense que
qu'ils
ont mis leurs 10 meilleurs scénaristes sur cette histoire, ou un seul, je ne sais pas. Peut-être qu'un seul suffit finalement. Mais là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une aussi belle histoire en termes d'écriture.
La différence de traitement entre les deux histoires, c'est même plus un gouffre. C'est vrai que c'est pour ça quand je disais en intro que j'avais du mal à vraiment jeter la pierre aussi au match féminin, parce que bah, ils se battent pas à armes égales quoi. C'est sûr que on a d'un côté un match qui est construit finement, habilement, bon, servi aussi avec des mecs qui sont bien meilleurs, hein, parce que voilà, globalement la Bloodline c'est je pense intrinsèquement beaucoup plus quali que n'importe laquelle des deux équipes féminines, toutes choses égales par ailleurs, mais ils sont quand même, voilà, ils ont une histoire qui est cohérente, ils ont un travail sur chaque personnage qui est très cohérent et qui est constant depuis le début. Il y a il suffit de voir, même au sein même du pay-per-view, c'est un match qui bénéficie en plus d'une surcouche de booking, d'une sorte de vernis, avec ces trois vignettes dans l'émission qui font qu'en plus tu arrives au match et c'est bien frais, il y a des vraies tensions, il y a des vrais enjeux, il y a une vraie implication du spectateur dans ce qui va se passer, et c'est impossible à comparer presque avec le match des filles qui est juste mort dans l'œuf quoi. Et donc là ouais, on a vraiment quelque chose qui est soigné, qui est raconté. On nous parle quoi. C'est un match qui nous raconte des choses, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment génial. Et tu l'as dit, cette fin est presque assez inattendue. Et c'est pour ça que quand je dis la Bloodline transcende un peu d'une certaine manière les codes et est en train d'opérer peut-être aussi un petit virage, ou en tout cas une mue par rapport à il y a quelques mois. C'est vrai que Roman Reigns a été très impliqué. Il y avait un petit peu la Bloodline et Roman Reigns en quelque sorte depuis quelques mois, avec Roman Reigns était très pris avec Brock Lesnar et Drew McIntyre et ses rivalités précédentes. Et il avait ce rôle un petit peu de chef qui s'en sortait grâce à son groupe et peut-être un petit peu quoi hein, de temps en temps. C'était pas forcément le Roman Reigns le plus valeureux. Et là, je trouve qu'en quelques semaines et avec ce pay-per-view, il se repositionne ce chef de guerre là. Moi, j'ai trouvé que tout le travail pendant le pay-per-view, que ce soit dans les vignettes backstage, comme tu l'as dit, avec ce côté un peu le parrain, baiser de la mort, très méthodique, très calme. Tu vois, il se dit, ok, je vais régler les problèmes, on va y arriver. Et puis après, tu sais, dans la cage pendant tout le match, il était assis sur son tabouret. J'ai trouvé que visuellement c'était assez fort. Tu vois, c'était vraiment le chef de guerre, le stratège là qui était dans sa cage et qui observait ses petits qui partaient à la bataille. Et puis à la fin, il rentre et il mène la bataille. C'est lui qui y va de front et il s'implique, tu vois, il se cache pas non plus derrière eux, et il y va, et c'est lui qui sonne la charge et la charge finale. C'est un groupe qui est il, mais qui reprend énormément de codes quand même, de codes de l'honneur, de codes de on doit prouver sa valeur. C'est des codes face hein, d'une certaine manière, et donc c'est assez passionnant hein, parce que c'est clairement je pense que c'est la stable la plus impressionnante qu'on ait eue depuis, Ouais, je pense que c'est depuis ces, je sais pas combien de temps, mais des années 2000 peut-être, je sais pas, hein, mais pour moi, ils sont en train de s'installer au-delà de ce qu'a pu faire. En tout cas, ils sont en train de se rapprocher du Shield, peut-être, je pense. Roman Reigns, en tout cas, est en train d'avoir à son palmarès je sais pas pour combien de trucs il va être intronisé au Hall of Fame à la fin de sa carrière. Il va être intronisé
Oh, je
pour
pense qu'il y aura
du
un Hall of
Shield.
Fame, une édition unique où il n'y aura que Roman Reigns et ses différentes
Pour la
variations.
Bloodline, pour le Big Dog, pour le Head of the Table, enfin, ça devient indécent là. Hein.
Ouais, c'est comme ça que se termine ce pay-per-view incroyable. Bon, jusqu'à l'avant de parler des résultats, des pronostics, c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton top, je l'ai deviné, ton flop, je suis curieux de l'entendre, et ta note, s'il te plaît.
Eh ben écoute, mon top, ouais, c'est facile, mais c'est bon, c'est évidemment ce main event, mais particulièrement Sami Zayn. Franchement, chapeau l'artiste. Il a tout ce mec. Hein. C'est vrai que il a le catch sérieux, le catch comique, la promo. C'est les expressions faciales, le storytelling. C'est le package total. Et cette histoire le magnifie au possible. Et c'était une petite pépite, je trouve, sa prestation là dans cette rivalité. Alors, évidemment, ça s'inscrit avec tout le monde. Hein. Ça s'inscrit le travail avec Jey Uso et avec Roman Reigns et tout. Mais voilà, Sami Zayn, le top, giga top de ce pay-per-view. Mon flop, écoute, je vais le donner. On va pas tirer sur l'ambulance de Shotzi Ronda Rousey qui pour moi limite n'a même pas existé. Enfin, j'ai même pas envie d'en parler. Donc, je vais le donner au Booker.
Ouais.
On va continuer. Je vais le donner au Booker du Wargame féminin et d'une certaine manière plus largement des Bookers de la scène féminine. Je trouve que ce pay-per-view, voilà, quelqu'un qui découvrirait la WWE avec ce pay-per-view, je pense, se poserait des questions légitimes sur la qualité des programmes masculins et féminins. Il se dirait, mais c'est pas les mêmes personnes qui s'en occupent, c'est pas possible, c'est pas les mêmes personnes qui écrivent. Et c'est un tel gouffre sur ce pay-per-view, je trouve. Et ce qui rend, en fait, presque, je trouve, le match d'introduction presque minable à côté. Alors que voilà, on peut difficilement dire que c'est un mauvais match. Donc je vais donner ce flop un peu méta en quelque sorte, un peu là au booker féminin. Et ma note, bah, écoute, au demeurant, plutôt agréablement surpris de ces War Games. J'ai plutôt passé quand même une bonne soirée. Alors essentiellement grâce au mec, mais voilà, on va dire que dans l'ensemble, c'était plutôt un beau pay-per-view. Je vais donner 3,5. À une soirée. Je dis pas que j'ai pas spécialement envie que les War Games Survivor Series deviennent quelque chose de récurrent, mais globalement, écoute, exercice plutôt réussi quand même. Et puis, enfin, surtout grâce au main event. Mais voilà, en tout cas, bravo d'avoir réussi à sortir ça.
Écoute, mon flop, ça va être le même que toi. C'est vraiment là, je tire vraiment sur les scénaristes et les bookers de la division féminine parce que les filles, on l'a dit, voilà, elles ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Et elles ne sont pas trop mal débrouillées. Je pense qu'on aurait pu tout simplement leur donner un match Survivor, peut-être classique, tu sais, plutôt de la fourrer dans un Wargames. Ça aurait pas été déconnant, j'ai
Oui,
pensé là
je pense que ça
pendant.
se justifiait beaucoup plus.
Bah
Oui.
ouais, un bon vieux match à élimination qui aurait plutôt été sympa. On gardait cette stipulation que certains, dont moi, regrettaient de ne pas avoir eu lors de cette édition 2022. Un bon match à élimination qui aurait peut-être un petit peu déchargé à la fois les catcheuses, mais aussi les bookers, parce que finalement, les mecs se sont foutus eux-mêmes dans la mouise. Ils se sont donné un challenge pour lequel ils n'étaient pas prêts. Mon top, bah, écoute. Sami Zayn, c'est difficile de ne pas lui donner. J'étais en train de me dire, ouais, je vais peut-être te donner à quelqu'un d'autre un petit top de. Mais non, je vais le donner à Sami Zayn. C'est incroyable ce travail qui a été fait. Et puis, au storytelling, aux scénaristes quoi, qui sont derrière, tout simplement aussi. Hein. Les scénaristes sont derrière ce match-là. C'était vraiment une super belle histoire. Donc, bravo là pour ce main event qui, franchement, restera gravé dans un classique du genre. Une VHS à repasser pour les futures générations de scénaristes et de bookers. Dans le monde du catch. Et puis ma note, je vais monter un petit peu plus haut. On frôle le 4, mais on va rester à du 3,75. Mais c'était quand même super. Un excellent pay-per-view qui s'est plutôt pas mal dépatouillé de cette double stipulation qui était un petit peu imposée. Et je suis comme toi, je pense que c'est Wargame, c'est cool, mais vraiment, ça se prête vraiment à des fins. Bah, comme le Hell in a Cell qu'ils ont eu le beau goût, là, visiblement,
Ouais.
de faire sauter. on garde ça pour un final épique. Là, bah, c'était parfait pour les mecs, pour les filles. Bah, l'épique, on le cherche encore.
Ouais, c'est ça. Tu l'as dit. C'est exactement ça.
Je l'ai dit, c'est bon, c'est dit.
Tu l'as dit.
Allez, c'est l'heure de faire les comptes, mon beau Giscal, pour le concours de pronos de catch-up. On sait qu'il y a eu du grabuge, je vous l'ai dit, puisqu'on a un nouveau champion. Roll up, notre titre intermédiaire.
Il a eu peur.
Et moi, je me suis fait rouler dessus, mon beau Giscal, puisque je n'ai récolté que 4 pauvres points. J'ai voté à l'envers sur les Wargames. Je n'ai aucune excuse. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà, j'ai fait un moment d'égarement. Et donc, du coup, je me retrouve avec les gros nuls, les gros nazes. Donc ça fait bizarre. Après avoir fait un perfect il y a un mois, je t'avoue que là, c'est retour à la réalité. La fin du push.
Situation qu'on souhaite à personne.
Ça fait mal, mais bon, je vais revenir encore plus fort. Là. T'es un Austin Theory qui loupe son cachine, ça va me faire réfléchir, et je reviendrai plus fort, à n'en point douter. Ça aussi, entre le très mauvais et le très bon, mais pas d'excellence, il n'y a pas eu de perfect ce soir, personne n'a réussi à pronostiquer, il n'y avait que 5 matchs, hein, et pourtant... Ça paraissait facile, mais il y a eu quelques petites surprises, notamment ce match de Austin Theory. Mais tiens-toi, tu as eu 8 sur 11. Tu as bien pronostiqué 4 matchs
Merci.
Sur 5. C'est pas mal. C'est lequel ? C'est le Austin Theory, ouais, que t'as loupé comme papa.
Ouais, je me suis fait avoir.
Kingside, il a réussi à pronostiquer 4 matchs sur 5. Il a vu la victoire d'Austin Theory, mais. Il n'a pas vu la victoire d'AJ Styles. Il a voté pour Finn Balor, ce gros nul. Et du coup, il s'est fait coiffer au poteau par notre championne. Et oui, parce que le nouveau champion est une championne. Bon, Giscal. C'est Johanna Bébélu.
Et oui.
Devient notre première championne féminine de l'histoire de catch-up, tout simplement. Et donc, roll-up championne. Elle a vu la victoire de Steen Theory, mais par contre, elle avait voté pour les Brawling Brutes, pour les gentilles. Au main event. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage. Et elle coiffe ringside grâce au tiebreaker. Grâce à un point sur le tiebreaker, il y a 4 tiebreakers. Et c'est ce qui lui permet de devenir notre nouvelle championne roll-up de catch-up. Du coup, au classement général, eh ben, ça ne bouge pas. Je te rassure, Giscal, tu es toujours notre champion poids lourd. Mieux même encore, tu reprends un peu de distance, tu remets 3 points dans les dents de Seb, donc tu as 83 points, 80 pour Seb, derrière ça ne bouge pas avec Gino, Sully Perfect, Joel et Johanna qui montent d'un petit cran, et Shetty qui descend de 2 petits crans, et puis derrière IRM, moi je ne bouge pas à ma 8ème place, Ringside qui s'est enfin réveillé, qui remonte également, et puis derrière Franck, Nord de la Rivière, Jericho, Masmojo, Raphaël, et puis bien d'autres, hein. Après ça descend, je ne les mentionnerai pas, vous verrez tous les résultats, tous les classements sont sur le Discord et j'en mettrai un extrait dans Twitter. Bravo Giscal, toujours la tête de la table, mais il y a du monde derrière, hein. Il y a le souffle chaud
là-bas. Ouais, non, mais je sens qu'il ne faut pas que je me relâche parce qu'ils ne veulent pas lâcher.
Une triple frite et puis, ou alors un fatal four-way de travers et puis tu te fais avoir, donc... Il y aura du suspense jusqu'au bout, jusqu'à WrestleMania. Le prochain pay-per-view, c'est le Royal Rumble. On sera à San Antonio. Du coup, il n'y a aucun pay-per-view d'ici le Rumble, hein, Giscal.
Ouais, ça va être un peu... Bah écoute, c'est bien. C'est bien. Ils vont pouvoir... là, maintenant, ça va être la période où il va falloir qu'ils prennent le temps, qu'ils rebootent un peu les programmes, qu'ils nous relancent des histoires et qu'on se dirige vers le Royal Rumble avec quelque chose... de plus homogène et un petit peu de plus enthousiasmant quand même que, on ne pourra pas faire que des pay-per-view de 5 matchs entièrement axés sur la Bloodline. Il va falloir proposer quelque chose de cool. Donc là, ils vont avoir le temps, c'est bien.
Ben, le temps, si vous en avez, comme la WWE, vous pouvez nous écouter et nous suivre. C'est simple et c'est gratuit. Catch Up, le podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Toutes les semaines, on analyse les shows de Raw, de SmackDown et les pay-per-view. On a aussi le fameux comptoir du catch Special Shield. Et ben voilà, si vous voulez revivre les 10 premières années complètement folles du chef tribal Roman Reigns et de ses deux comparses Dean Ambrose et Seth Freaking Rollins, il suffit de vous brancher sur le podcast Catch Up une rétrospective incroyable de plus d'une heure sur un des clans les plus fous de la WWE ère moderne et bien sûr de l'histoire entière du monde du catch tant qu'à faire. Allez, je balance avant que la Bloodline ne prenne la relève.
Toutes les... Oui, c'est ça, dans 10 ans.
Il y a les têtes de Roman Reigns sur toutes les vignettes, c'est sûr. Toutes les plateformes habituelles hein, de podcast pour ne manquer aucun épisode, mais également la version YouTube. N'hésitez pas à commenter votre top, votre flop et votre note. Le lien vers notre Discord est dans la description. Les réseaux sociaux, c'est Catch Up CDC, Twitter, Facebook, Instagram. N'oubliez pas, hein, Royal Rumble, c'est pas tout de suite, mais il y aura aussi des points avec le concours de pronos qui va continuer. Qui ira détrôner Giscard juste avant WrestleMania, est-ce qu'il va y avoir un petit coup là, tel un Elimination Chamber, tu sais, qui rabat toutes les cartes juste avant le grand show là. Jessica, il va falloir t'accrocher. En tout cas, merci à toi d'être venu pour cette belle analyse.
Bah écoute, avec un grand plaisir, et merci de m'avoir accueilli une nouvelle fois. Et en effet, maintenant le Rumble, on sait pas combien de points ça va valoir. Hein, donc,
on va réfléchir. Il va falloir mettre un match parce qu'on va pas mettre trop de points.
Ça fait pas mes affaires, ça.
On va pas mettre trop de points sur le Rumble, mais il va y avoir du grabuge. La route vers WrestleMania est pleine d'embûches et pleine de suspense à tous les niveaux. Je remercie tous nos auditeurs et nos auditrices une fois de plus. On vous donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine, pleine de catch. Salut, salut.
Ciao, ciao tout le monde.
Je sens là le souffle chaud de la meute sur ta nuque.
Je le sens, mais je vais la repousser, je vais continuer à la repousser, cette meute.